Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous lirons dans l'évangile de Luc, évangile de Luc chapitre 24. Déjà la semaine passée, nous avions lu quelques textes dans ce même chapitre, dans cette même histoire. Et je n'ai pu m'empêcher d'y revenir. La parole de Dieu est tellement merveilleuse, tellement puissante. Et il y a tant d'enseignements pour nous et jamais nous l'avons épuisé. Et j'aimerais revenir encore sur des éléments sur lesquels nous étions dimanche passé. J'aimerais insister sur ce que Jésus a dit. Croyez à toute l'Écriture. Là est le besoin de notre monde d'aujourd'hui. Et je te parle à toi, monde dit chrétien, monde qui prétend croire à la parole de Dieu et qui se promène avec la Bible sous le bras. Croyez à toute l'Écriture. Nous allons lire ensemble dans Luc au chapitre 24 à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous liserons un peu plus loin au verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. J'ai écouté cette semaine une émission sur la télévision, La Marche du siècle, et il était question de religion, et là il y avait différentes religions représentés. Il y avait un monsieur qui était dans la philosophie du bouddhisme et qui a fait cette déclaration bouleversante. En tout cas, le bouddhisme ne donne pas la culpabilité parce qu'il ne parle pas de péché. Pour le bouddhisme, le péché n'existe pas. Et il y en a d'autres qui disaient, en tout cas, ma religion ne met pas l'homme sous la culpabilité. Écoutez, frère, il n'y a pas besoin de nous mettre sous la culpabilité. Nous sommes sous la culpabilité. Nous sommes déjà coupables et notre conscience nous le dit. Notre conscience le crie. Le problème du monde, je reviens, je le dirai et je le dirai encore, c'est un problème de péché, de rébellion contre Dieu, de rébellion contre tout ce qui est loi, justice et vérité, de méchanceté, d'amour du mal plutôt que du bien. Le péché, voilà le problème de l'humanité. Et il fallait, et il faut quelqu'un pour ôter le péché. Et là, nous avons le symbole de tout l'Ancien Testament, de tous les rites, entre guillemets, les rites de l'Ancien Testament, avec les sacrifices offerts pour le péché, depuis la première page de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Il est question de péché et de combat pour écraser la tête du serpent. Il n'y a aucune solution pour le monde en dehors de la solution final qui est que le péché soit ôté, que le péché et la tête du serpent soient écrasés. Et toi, ô homme, tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Et la Bible n'a pas d'autre raison d'être sinon que celle-ci nous révéler le grand héros qui est venu dans le monde pour ôter le péché de l'humanité, pour apporter la solution aux problèmes de l'humanité. Problèmes. Des problèmes qui augmentent tous les jours alors que nous ouvrons les boutons de notre télévision ou de notre radio. Des problèmes de constants. Vous allez me dire que ce n'est pas le péché quand on tue pour rien. Vous allez me dire que ce n'est pas le péché quand on vole. Vous allez me dire que ça, c'est mettre les gens sous la culpabilité que de leur parler de péché quand on tue des enfants, quand on fait la guerre, quand on extermine des innocents. Vous allez me dire que ça, ce n'est pas le péché quand, pour l'appât du gain, pour l'appât du gain, on vole, on fait toutes sortes de choses inavouables. On s'enrichit sur le dos du pauvre. Frères, sœurs, le problème du monde aujourd'hui, c'est le péché. Il n'y aura pas de bonheur pour qui que ce soit, à moins que le péché soit ôté, et que l'auteur du péché, le promoteur du péché, la dynamique du péché soit ôtée. Et c'est le serpent. Nous avons parlé du Messie qui remplit toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, disant que la parole de Dieu n'a pas d'autre but que celui de nous faire connaître Dieu, de le révéler aux hommes. Dieu a voulu se révéler aux hommes parce que les hommes ont fui Dieu depuis la Genèse, depuis la création, se soumettant aux menteurs et aux voleurs. Et Dieu n'a pas voulu exterminer l'humanité, au contraire. Il a voulu la sauver, car Dieu a tant aimé, Dieu nous aime d'un amour que je ne peux comprendre ni saisir. D'où vient une telle patience? D'où vient une telle patience de sa part? Je ne comprends et je ne peux saisir la patience de Dieu. Il parle, il nous a créés un peu en dessous des anges, est-il dit dans la parole de Dieu. Mais il va nous élever dans la gloire, à la ressemblance de Jésus-Christ. Il veut se révéler aux hommes, dans nombre de ses aspects, parce que Dieu est multiple dans ses aspects et dans sa personnalité. Il veut se révéler aux hommes, mais nous ne pouvons que effleurer sa personnalité. Nous ne pouvons que apercevoir d'une façon très imparfaite, comme à travers un épais brouillard, sa personnalité, car nous ne pouvons la saisir, nous pauvres vers de terre que nous sommes, car personne ne peut sonder Dieu, personne ne peut analyser Dieu, personne ne peut mesurer Dieu et l'enfermer dans un raisonnement humain, personne ne peut l'enfermer dans une explication théologique. Non, personne. Le plus grand théologien de ce monde ne peut expliquer Dieu. Mais dans sa grâce, il s'est fait connaître à nous. Et ce que nous connaissons de lui est merveilleux. C'est bien le terme qu'a employé Manoah dans l'Ancien Testament, le père de Samson, lorsqu'il a demandé à l'ange de l'Éternel qui lui était apparu, ne sachant pas que c'était un ange de l'Éternel, ayant une apparence comme la sienne. Il lui a dit, quel est ton nom? Et il lui a dit, il est merveilleux. Dieu a mille façons de se présenter aux hommes. Dieu a mille façons de se révéler aux hommes. Et nous voulons toujours le mettre dans un petit compartiment. Nous voulons toujours vouloir expliquer avec une doctrine. Nous voulons toujours l'expliquer et le faire. Oui, l'expliquer, pauvre ver de terre, expliquer Dieu. Qui es-tu? Graduellement, nous le voyons dans l'Ancien Testament. Puis, nous le voyons dans le Nouveau Testament. Car celui qui est sur les routes de la Galilée, celui qui marche sur les chemins de la Judée, celui qui prêche dans le temple, celui qui guérit les malades, celui qui ressuscite les morts, celui qui ouvre les yeux des aveugles et qui chasse les démons, celui-là a été prédit par les prophètes depuis les temps les plus anciens. Car celui-là, c'est Dieu, que disait Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 11 et au verset 1 et 2, il dit: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Un rejeton du tronc d'Isaïe. Et au verset 10, il dit encore, le prophète, sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour tous les peuples, sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Où sera sa résidence? À Jérusalem, ville choisie de toute éternité pour être la ville du grand roi. Jésus, Dieu en chair, le Messie attendu. En effet, Ésaïe a vu déjà tant de choses sans les avoir comprises, mais inspirées par le Saint-Esprit. La jeune fille est enceinte, dit-il, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ce fils, c'est Emmanuel. Ce rejeton d'Isaïe, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et plus loin, toujours inspiré par le Saint-Esprit, il s'écrira: un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qui est-il, ce rejeton d'Isaïe? Qui est-il, ce fils né d'une vierge? Au commencement, dit Jean. Jean, inspiré par le Saint-Esprit, les premières paroles qu'il écrit de son livre. Ses premiers mots sont ceux-ci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, il s'écrit: et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Qui est cette parole? Dieu. Qui a été fait chair? Dieu en chair, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Qui est donc Jésus? Jésus est Dieu puissant. Jésus est Père éternel. Jésus est la parole qui a été faite chair. La parole, c'est quoi? C'est l'expression. Jésus est l'expression du Dieu puissant qui remplit tout l'univers. Alléluia. Il est l'expression. Et quelle expression, frère? Expression d'amour. Expression de pardon. Expression d'amour qui mène jusqu'au sacrifice. Car il est le grand héros qui est venu et prédit déjà depuis Genèse au chapitre 3 et au verset 15. Le grand héros qui vient écraser la tête du serpent. Cette parole, faite chair, c'est Dieu lui-même. Vous me demanderez d'expliquer, mais je ne peux expliquer. Je ne fais que de constater, et ce que je vous dis là ne sont pas des explications, ce sont des constats appuyés sur le livre. Je crois dans un Dieu unique. Je ne crois pas dans 3 dieux, 4 dieux, 5 dieux, 6 dieux. Je crois dans ce Dieu unique et universel. Ce Dieu a tant de façons, de se manifester. Il est illimité, illimité dans la manifestation de sa personne. Dieu fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il veut est pour le bien. L'Écriture parle de lui d'un bout à l'autre, c'est ce que Jésus dit. Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il n'avait pas le Nouveau Testament alors. Le Nouveau Testament était en train de s'écrire. Dans toute l'Écriture, de Genèse à Malachie, il est parlé de lui. Dieu est esprit, dit l'Écriture. Et ce Dieu qui est esprit, a voulu se manifester à nous, à notre échelle. Voilà l'extraordinaire. Voilà le miraculeux. Le Dieu infini est devenu fini pour nous. Il s'est limité volontairement pour nous. Il est devenu chair. Il est venu à notre échelle. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait sauveur. Portant le péché des hommes dans la chair. C'est dans la chair qu'il a porté le péché des hommes. Il fallait qu'il soit de notre famille pour être le Rédempteur. Quelle merveilleuse révélation nous avons de Dieu en Jésus-Christ. Jésus, Dieu, appelé Fils. Fils parce que né d'une femme. Fils parce que la chair, il est de chair telle que nous sommes. Fils parce que soumis à la loi. Fils parce que devenu homme est conçu par la vertu du Saint-Esprit. Fils de Dieu. Dieu en chair égale Fils. Expliquer ça, je ne peux que le constater. Frères, sœurs, quand nous voulons trop expliquer, nous nous perdons. Je crois dans toute l'inspiration de l'Écriture, depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière page. Et je sais que lui-même nous parle et nous révèle ce que nous devons savoir dans cette Écriture. Mais il y a tant de choses que je voudrais mieux savoir. Mais Seigneur, je te loue pour ce que tu me dis et ce que tu m'expliques. Et je sais que dans l'éternité, je saisirai beaucoup mieux les dimensions de Dieu. Quelle étude biblique extraordinaire donna-t-il à ces deux hommes qui vont de Jérusalem à Emmaüs? Ils sont là, ils parlent entre eux, ils sont déçus, car ils espéraient que ce serait lui, ce grand prophète, qui les délivrerait, qui délivrerait Israël. Mais il est mort, et pour l'homme, il n'y a plus rien après la mort. Ce n'est que le mystère. On parle d'eux, mais on ne sait pas, mais on n'est pas sûr, et on espère. Mais après la mort, plus rien, car l'homme est arrivé à ses limites. Mais c'est là où Dieu commence. Alléluia. La mort n'est pas une fin, la mort est un commencement, car il y a une vie après la vie. Quelle étude biblique merveilleuse il leur donna en ce jour. Les disciples ne sont pas conscients qui il est, mais ils écoutent le plus grand théologien de l'univers, qui leur explique la parole, qui leur parle de lui-même, cet étranger qui marche avec eux sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs, 11 kilomètres, et c'était le soir. Cet étranger qui marche avec eux leur dit des choses qu'ils n'avaient jamais entendues, qui ne leur étaient jamais montées au cœur, qui ne leur avaient jamais été enseignées. Arrivés là à l'auberge, à Emmaüs, ils l'invitèrent de rester avec eux. Reste avec nous, Seigneur. Le soir est là. La journée est passée. Il nous est dit que Jésus, l'étranger pour eux, voulait continuer sa route. Mais ils dirent non, reste avec nous. Jésus ne s'impose jamais. Jamais. Il est très poli. Il est très poli. Il ne s'impose jamais. Et les disciples ont dit, reste avec nous. Nous pourrons parler encore de ces choses que tu sais si bien. Et le Seigneur rentra avec eux dans l'auberge. Mais la conversation continua. Il continua de leur parler. Il ne réalisait pas que celui qu'il pleurait parce qu'il le pensait mort était là auprès d'eux. Pour eux, il était mort. Tous les prophètes pourtant parlent de lui avec Moïse. Et tous les prophètes. Alors, ils s'assirent. Ils commandèrent leur repas. Et la conversation continua. Mais que leur dit-il? Nous pouvons en avoir un petit aperçu dans la parole de Dieu. Dans Genèse, nous l'avons dit, n'est-il pas dit déjà là que le grand héros, la semence de la femme, écraserait la tête du serpent? Pourquoi donc? Car déjà en Éden, le sang a été versé à cause du péché de l'homme. Et peut-être qu'il a parlé de ce passage dans la Genèse au 49-10, quand Jacob prophétisait sur chacun de ses fils avant de mourir. Et il dit, le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas. Et voyons, et continuons son exposé, il parle dans des Deutéronomes de Moïse qui a dit au peuple, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Il n'y a pas eu de prophète comme Moïse que jusqu'à Jésus-Christ. Il n'y en a pas eu qui ont été dans la présence de Dieu comme Moïse et qui a parlé face à face avec Dieu comme Moïse. Il y a eu des grands prophètes dans l'Ancien Testament qui ont parlé de celui qui allait venir pour porter le péché des hommes. Il y a eu des Élie, des Ézéchiel, des Daniel et combien d'autres encore. Mais personne n'a été en contact avec Dieu comme Moïse. Un prophète comme moi, qui est-il? Sinon que Jésus qui est venu pour porter le péché des hommes. Qui est-il ce prophète? C'est un homme. Il est de la racine d'Isaïe, de la descendance de David. Et David s'écrit lui-même, étant de la tribu de Juda, dans le psaume 132, verset 11, « L'Éternel a fait serment à David. En vérité, il n'y reviendra pas. C'est un de tes descendants que je mettrai sur ton trône. » Et il continue. Certainement qu'il a dit beaucoup plus que je puis vous dire ce matin. Dans Jérémie, au chapitre 23 et au verset 5, Jérémie, le prophète, inspiré par le Saint-Esprit, s'écrit, « Je susciterai à David un germe juste. » Combien de rois sont sortis de David? Mais des rois qui se sont révoltés contre l'Éternel, des rois qui ont adoré les idoles, des rois qui, dans un premier temps, ont été fidèles et qui, après, ont failli. Des rois qui sont morts les uns après les autres. « Je susciterai à David un germe juste. » Un germe juste. Tous les autres sont morts. Tandis que lui, il vit éternellement. Dans Ésaïe, chapitre 28, verset 16, le prophète encore s'écrit, « Me voici. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » Cette pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, tel que nous dit David au chapitre, au psaume 118, 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Car David s'écrit au psaume 2, les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Il fallait d'abord qu'il écrase la tête du serpent. Alors le prophète Michée voit au loin et il prophétise, car il voit déjà la venue du Messie, né des centaines d'années plus tard. Et il s'écrit, conformément à la prophétie d'Ésaïe, que la jeune fille deviendra enceinte. Il dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps lointain, passé, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. » Cette jeune fille dont parle Ésaïe. Et Malachie, au chapitre 3, verset 1, s'écrit, « Il entrera dans son temple, le Seigneur, que vous cherchez, est le messager de l'Alliance. » Oui, tous les prophètes en parlent, depuis Moïse jusqu'à Malachie. Daniel, au chapitre 22, au verset 44, s'écrit, « dans le temps de ses jours, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Un royaume qui n'aura plus de fin. Mais avant ce royaume, il faut payer la rançon du péché. Avant ce royaume, il faut racheter l'humanité. Et il faut racheter la propriété qui était perdue, car la dette était trop lourde. Aucun d'entre nous, nous ne pouvions payer la dette, payer la rançon. Alors Daniel s'écrit au chapitre 7, verset 13, « Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. » Ce moment vient, cette prophétie n'est pas encore réalisée, mais l'heure arrive où elle se réalisera à la lettre. Avant cela, il a fallu payer le prix. Avant cela, il a fallu qu'il meure sur le bois de la croix. Et c'est ce que Ésaïe a prédit au chapitre 53 de son livre. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine, la racine d'Isaïe, dont il est question plus tôt. Comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qui est, de ce qui était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la bras de leur faute. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Le talon du héros a été écrasé par le serpent. Mais le serpent a été écrasé. Et celui qui était mis dans le tombeau est sorti vivant. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Frères et sœurs, je pense qu'en ce jour, sur la route d'Emmaüs, voilà quelques points de l'étude biblique que cet étranger a fait à ces deux hommes qui marchaient sur la route d'Emmaüs. Ils se mirent à table pour manger. Et voilà, on leur apporte le pain, on leur apporte le plat. Et leurs yeux sont fixés sur lui. Et il prend le pain, et il rompt le pain. C'est toujours le chef de la famille qui fait cela. Et cet étranger s'est considéré comme chef au milieu d'eux. Ils l'ont regardé, et alors qu'il rompt le pain, ils le reconnurent. Et dès l'instant qu'ils le reconnurent, il disparut devant leurs yeux. Il était avec eux, il marchait avec eux, il parlait avec eux, mais ils n'ont pas compris qui il était. N'est-ce pas le cas pour beaucoup de personnes parmi nous? Jésus est là, mais ils ne le reconnaissent pas. Il est comme un étranger pour eux. Ils vivent comme des étrangers quant à Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, ils sont seuls et ils gémissent. Ils gémissent sur leur fardeau. Alors qu'il a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Oui, mais où es-tu, Seigneur? Je ne te vois pas dans mes problèmes. Je ne te vois pas dans mes peines. Tu n'as pas besoin de le voir. Il est là avec toi. Tu n'as pas besoin de le sentir. Il est là avec toi, car il ne peut mentir. Comment se fait-il que des hommes de Dieu ont tenu contre les persécutions? Comment se fait-il qu'ils ont accepté d'être enfermés dans les prisons toute leur vie? Comment se fait-il qu'ils ont accepté le feu, qu'ils ont accepté la pendaison et qu'ils n'ont pas renié leur sauveur? Comment ont pu-ils le faire? Où était leur force? Leur force était que Jésus était avec eux. Il était là avec eux. Et lorsque Jésus est avec un de ses témoins, ce témoin peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Il est là toujours. Il est là partout. Il est là dans toutes les circonstances. Jésus est plus avec nous aujourd'hui qu'il n'était avec ses disciples, limité par le physique, limité par le temps. Il s'était limité lui-même volontairement en devenant un homme. Mais maintenant, il est avec nous par son esprit. Je suis avec vous. Il est avec vous, chacun de vous qui êtes ici, dans vos maisons, des millions d'hommes et de femmes. Jésus est là avec eux par son esprit. Tellement souvent, nous ne le reconnaissons pas, nous l'ignorons, incapables même de l'entendre. Les disciples ne l'ont pas aperçu, mais ils l'ont entendu. Et ils ont entendu ces paroles. Ces paroles bouleversèrent leur cœur. La Bible nous dit que dès l'instant où ils aperçurent que c'était Jésus, quoique l'heure fût déjà avancée, ils quittèrent l'endroit où ils étaient, malgré les grands dangers de la route pendant la nuit. Et ils marchèrent les 11 kilomètres de retour à Jérusalem. Ils allèrent dans cette maison où ils savent que les disciples sont réunis. Et là, ils trouvent les 11 dans cette chambre, plus tous les compagnons qui étaient avec eux. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Quand Jésus prit le pain, dirent-ils, nous le reconnurent. Mais comment le reconnurent-ils? Parce que leurs yeux étaient là sur ce pain. Et quand ils virent ses mains sur le pain, ils virent les marques des clous percés pour le péché du monde. Et dès qu'ils ont vu ces marques, ils ont regardé ses visages et ils ont dit, c'était donc lui. Et nous ne l'avons pas reconnu, car il porte jusque dans l'éternité l'identification de sa personne, les clous dans les mains et les clous dans les pieds et le côté percé. Ils sont là avec les 11. Ils parlent de ce qu'ils ont vu. Et les 11 disent, oui, il s'est révélé à Simon. Simon l'a vu. Et alors, subitement, là autour des lampes à l'huile qui étaient sur la table, tous assis autour de la table, en train de parler de ces choses. Et les deux d'Emmaüs dirent, quand ils parlaient, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Nous ne comprenions pas pourquoi, mais son enseignement était d'une lumière et d'une clarté que nous n'avons jamais vues. Et alors qu'ils parlèrent ainsi et que chacun apportait son commentaire, subitement, Jésus est au milieu d'eux. Imaginez votre réaction à vous si cela vous arrivait. Dans une chambre fermée, en train de parler pendant la nuit, avec une petite lumière, des lampes à huile là, et subitement, cet homme au milieu de vous. Ils furent saisis de frayeur, nous dit la Bible. Ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans votre cœur? Voyez mes mains et voyez mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Donc il a une chair, donc il a des os. Mais un corps spirituel, un corps tel que tu auras au jour de la résurrection, un corps tel que tu auras lorsque la trompette sonnera, un corps glorifié, car la parole de Dieu nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et nous qui avons cru, nous le suivrons. En disant cela, il leur montra ses mains, ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Ils lui présentèrent un rayon de miel et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que tout cela s'accomplisse. » La même chose a été répétée quelques jours plus tard, une semaine plus tard avec Thomas, parce que Thomas n'était pas là, et Thomas a dit, « Moi, je ne croirai pas, à moins de voir l'évidence, si je ne mets ma main, mon doigt, dans les marques de ses clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne puis croire. » Et voici qu'une semaine plus tard, Jésus apparaît aux 12, aux disciples, et Thomas est là. Et Jean nous dit qu'il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Pourquoi tant d'incrédulité? Ils étaient si lents à croire. Ils étaient si lents à le reconnaître. C'est parce qu'ils n'avaient pas cru à toutes les Écritures. Voilà la grande tragédie de notre monde d'aujourd'hui. On ne croit pas à toute l'Écriture. Nous vivons dans des temps de pessimisme, de scepticisme. L'Écriture n'est pas l'autorité aujourd'hui du croyant. On place la tradition au-dessus de l'Écriture. L'Écriture n'a plus l'autorité pour le croyant. Elle n'est pas respectée. Aujourd'hui, c'est un homme qui prétend connaître la révélation. C'est un homme qui prétend avoir l'autorité. C'est un homme qui s'élève au-dessus des autres. Non, mes frères, car il n'y en a pas d'autre que lui qui est autorité. Et il est révélé dans sa parole. Aujourd'hui, pour beaucoup, on ne croit plus à toute l'Écriture. Aujourd'hui, pour beaucoup, il n'y a plus d'autorité dans cette Écriture pour le croyant. Elle n'est pas respectée dans combien d'églises professantes. Elle est tordue, elle est révisée, elle est pervertie, elle est changée, elle est même réécrite par des théologiens irresponsables, simplement pour appuyer leur point de doctrine. On attaque l'histoire de la création, on attaque l'histoire de la chute, on attaque l'histoire de Noé et on appelle cela des légendes ou du folklore, où on dit selon les mythes de la tradition religieuse chrétienne. On entend ça à tout moment sur les médias. On nous dit que si nous croyons à ces choses, on fait étalage de son ignorance, qu'on n'est pas scientifique. Il est impossible d'accepter une partie de l'Écriture seulement et de rejeter le reste. Si une partie est mythe, le reste alors, qui va dire que le reste, quelle partie de la vie de la Bible n'est pas un mythe? C'est tout ou rien. Jésus a dit que toute l'Écriture parle de lui. Il a donné autorité à Moïse. Il a donné autorité aux prophètes. Il a donné autorité aux psaumes. Il a cru les livres. Il a cru à l'histoire de Jonas. Oui, hier encore, il en parlait à ses disciples. Nier une partie, c'est rejeter toute la Bible. Quelle excuse avons-nous aujourd'hui? Nous avons la Bible, elle est à notre portée. Nous l'avons avec nous, frères, sœurs. Que faisons-nous avec cette révélation? Jésus s'est manifesté selon les Écritures. Et nous avons reçu l'esprit de la Pentecôte. Un esprit de connaissance, un esprit de révélation, un esprit de vérité. On entend la parole, elle est prêchée dimanche après dimanche, elle est enseignée, mais on ne semble pas comprendre. Et vous avez des chrétiens qui restent des petits bébés dans la foi, année après année. Pourquoi donc? On fait une sélection. On n'accepte pas toute l'Écriture. On ne croit pas dans toute l'Écriture. C'est pour cela qu'on reste des bébés dans la foi. Et qu'on écoute, et qu'on entend, mais on ne grandit pas.